Radio Okapi. Le journal, présenté par Lievin Mwinga.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Merci à vous de rester fidèles à Radio Okapi. Au sommaire de cette édition, minerais exportés par le Rwanda, des députés européens prennent position à Kinshasa. Ils plaident pour qu'ils soient déclarés minerais de sang, puisque provenant des zones de conflit, ces députés ont eu une réunion avec le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia. Le 8 mars a vécu occasion pour les Congolais de revoir la condition de la femme en cette période où l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 agressent la RDC. Propos de la première ministre Judith Suminois, elle s'exprimait au cours du culte œcuménique organisé au Palais du Peuple à l'occasion justement de la journée de la femme. Dans ce journal également, cet horrible constat de la Commission nationale des droits de l'homme, près de 100 000 réfugiés congolais logés dans des camps de fortune au Burundi vivent dans des conditions infrahumaines et d'horreur inacceptables. Des précisions avec le président de la CNDH, Paul Sapou, est notre invité. Nous commençons ce journal avec cette réaction de quelques délégués de l'Union européenne face à la guerre de l'Est de la RDC. Le mémorandum d'entente sur les minerais stratégiques que l'UE avait signé avec le Rwanda, qui agresse aujourd'hui la République démocratique du Congo, doit être simplement annulé car dépourvu d'une traçabilité réelle et provient des zones de conflit. Cette déclaration a été faite hier dimanche à Kinshasa par une délégation des députés européens conduite par Thierry Mariani. C'est à l'issue d'une réunion stratégique avec le ministre du Commerce extérieur et ancien gouverneur du Nord Kivu pendant 12 ans. Julien Paluku Kaongia a présenté aux députés qui siègent au Parlement européen les causes principales de l'instabilité à l'est de la RDC pendant plus de 30 ans, dont le pillage systématique des minerais et la destruction du tourisme congolais. Plus de détails avec vous, Alain Irung.
Le Conseil européen va concrétiser les sanctions prises contre le Rwanda, a déclaré le député européen Thierry Mariani.
Nous, on est satisfaits que désormais le Parlement européen ait pris cette décision sur les sanctions. Il reste maintenant à la faire appliquer par le Conseil européen, ce qui devrait être fait, j'espère, à partir du 17 mars.
Au nom du gouvernement congolais, le ministre du Commerce extérieur a plaidé pour que tous les minerais exportés par le Rwanda soient déclarés minerais du sang et que les unités rwandaises ne soient plus acceptées dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU. Julien Paluku Kaongia.
Il est inconcevable que l'Union européenne, qui est respectueuse de tous les principes du droit international, puisse continuer à considérer le Rwanda comme un partenaire crédible, alors que c'est à travers le versement du sang que les minerais sont extraits dans la partie est de la RDC.
Les députés européens ont condamné les graves violations du droit international humanitaire commis par le M23 soutenu par le Rwanda.
Puisque nous parlons du différend entre le Rwanda et la RDC, allons sur le terrain des hostilités à présent. La cité de Nyabiondo, dans le territoire de Masisi, au Nord Kivu, est passée sous occupation rebelle de l'AFC M23 depuis hier dimanche. Ceci après d'intenses combats, les opposants au FRDC appuyés par des combattants de l'APCLS de Janvier Kalahiri. Nyabiondo, chef-lieu du secteur de Oso Bwanyungu, est situé à environ 110 km au nord-ouest de la ville de Goma. Ces combats ont encore une fois occasionné un déplacement massif des populations. Ces dernières, sous une pluie battante, ont fui vers Kachébéré. La prise de Nyabiondo rapproche le M23 de la porte du territoire de Walikale, un territoire riche en minerais et où se trouve le siège de la société minière Alpha Mine. Signalons que c'était le quatrième jour consécutif, hier dimanche, que les M23 s'affrontent au FRDC Ouazalendo dans la région de Masisi. Et puis, plus ou moins une bonne nouvelle parmi ces faits qui rongent l'est du pays, c'est le retour de plus de 28 000 personnes dans leur village dans la zone de santé de Mouesso, en territoire de Masisi. Nous sommes toujours dans le Nord Kivu. Et cela porte au total à plus de 78 000 retours dans le Masisi depuis janvier 2025. Mais, arrivés sur leur terre d'origine, ces populations font face à des défis majeurs liés à la destruction des infrastructures. Conséquence, leur accès aux soins, à l'éducation, communication et aux moyens de subsistance est limitée. Pour soulager tant soit peu la souffrance de ces retournés, les humanitaires organisent des distributions de vivres et non-vivres en leur faveur. La coordination des affaires humanitaires au Tchad, dans son récent rapport du 8 mars, évoque également les défis sécuritaires et logistiques persistants de la réponse humanitaire dans plusieurs localités. Le point avec Askin Zigbiatayoro.
Elles sont environ 200 000 personnes retournées des villages de la localité de Mouesso qui reçoivent de vivres depuis le début de ce mois. 13 000 autres ménages bénéficient des articles ménagers essentiels et d'eau, hygiène et assainissement. Et plus de 14 000 enfants dans cette même région reçoivent un traitement contre la malnutrition, rapporte OCHA. Cependant, le défi sécurité et logistique à la réponse humanitaire persiste dans plusieurs localités, ce qui ne facilite pas du tout le travail des humanitaires dans cette région, dit OCHA. Et pour consolider ces retours, OCHA estime qu'une coordination interagence est essentielle afin de garantir la sécurité, l'accès aux services de base et la réhabilitation des infrastructures. D'autre part, OCHA fait savoir que la fermeture de banques et institutions de microfinance paralyse aussi la distribution de l'aide d'urgence aux retournés par transfert monétaire. Par ailleurs, la fermeture de l'aéroport de Goma depuis fin janvier dernier oblige les humanitaires à utiliser des itinéraires alternatifs via la Tanzanie et le Rwanda. Des retards à la douane bloquent des cargaisons, y compris celles arrivées avant la prise de contrôle de Goma, souligne OCHA.
L'actualité, ce sont aussi plusieurs opposants cadres du Parti du Peuple pour la reconstruction et le développement attendus ce lundi à l'auditorat militaire ici à Kinshasa. En tout cas, ces membres du PPRD, parti de l'ancien président Joseph Kabila, sont invités aujourd'hui par l'auditeur supérieur militaire. Selon cette invitation qu'on peut lire sur la toile, ils sont appelés à éclairer la justice sans aucun autre détail. Mais d'après un communiqué du cabinet du ministère de la Justice, ces opposants sont auditionnés et interpellés car soupçonnés de complicité avec le mouvement terroriste du M23 AFC. Parmi eux, on cite notamment le vice-président du PPRD, Aubin Minaku, le secrétaire permanent de ce parti, Emmanuel Ramazani Chadari, et son adjoint, Ferdinand Kambéré. Toujours d'après le communiqué du ministère de la Justice, tous les hauts responsables de ces partis ainsi interpellés sont interdits de sortir du territoire national jusqu'à nouvel ordre. Le 8 mars a vécu, c'était samedi dernier, et à cette occasion, la première ministre a affirmé qu'avec l'agression de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 dans l'est de la RDC, l'actualité nous replace devant nos responsabilités quant à la condition de la femme congolaise. Judith Souminois l'a dit samedi au Palais du Peuple, où était organisé un culte œcuménique par le ministère du Genre, Famille et Enfants. C'était à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes en soutien aux femmes victimes d'agression rwandaise dans l'est du pays. On écoute Judith Souminois dans ses propos recueillis par Alain Irung.
En République démocratique du Congo, la date du 8 mars constitue un moment singulier car cette célébration est porteuse d'enjeux de grande densité. La date du 8 mars nous rappelle en effet les défis uniques et souvent dévastateurs auxquels les femmes de notre nation sont confrontées à la suite des guerres et des violences qui ont marqué profondément notre nation. Comme on le sait, les femmes et les filles ont souvent porté le poids des conflits, subissant différentes formes de violences et des pertes incommensurables. Les témoignages des victimes, les récits personnels des femmes qui ont subi des violences sexuelles et physiques sont puissants et peuvent sensibiliser le public à l'ampleur de la tragédie. Les femmes et les jeunes filles sont victimes de violences sexuelles utilisées comme armes de guerre et pourtant, elles restent les gardiennes de la paix et les architectes de la reconstruction de notre pays, car elles sont le socle économique de notre nation.
Pour sa part, dans son message à l'occasion de la Journée internationale des droits de femmes, le coordonnateur résident du système des Nations Unies en RDC affirme que cette célébration prend un sens particulier au pays où les femmes sont des piliers de la société et jouent un rôle clé dans la construction d'une nation forte et inclusive. Mais cette journée a également lieu dans un contexte des faits très graves alors que le pays fait face à une nouvelle page douloureuse de son histoire, ajoute Bruno Lemarquis. Journée internationale des droits des femmes toujours à Goma cette fois. La priorité des femmes réside en la survie de leur famille. Le PAN du 8 mars est resté très loin dans leur mémoire. La sécurité de leur famille et l'approvisionnement alimentaire sont leurs principales préoccupations. Leur panier est-il suffisamment garni pour nourrir les enfants et leur assurer une alimentation équilibrée? Une conseillère familiale exhorte les mères à ne pas se laisser submerger par les complexes liés au repas en cette période de crise. Plus de détails avec Rosalie Zawadi.
Avec seulement 10 000 francs congolais, des petits poissons appelés à Goma Kabuchungu, vous pouvez nourrir votre famille pendant 4 jours, explique cette conseillère familiale. En y ajoutant des arachides et quelques légumes, vous êtes assuré d'offrir une alimentation équilibrée à vos enfants sans dépenser une fortune. Le problème réside dans la perception de ces repas, souvent considérés comme un plat pour les personnes démunies. C'est pourquoi elle appelle les mères des familles à adopter un réalisme nécessaire dans les contextes actuels de Goma.
Tout d'abord, nous allons laisser de côté nos complexes sur les repas. Lorsque nous sommes dans cette dure période où l'essentiel, c'est d'être rassasié, chère mère de famille, tu dois prendre le temps pour réfléchir. De combien je dispose cette semaine ? C'est là pour ne pas dépenser le peu d'argent que tu peux avoir sur 2 jours. De toutes les façons, c'est auprès de nous que les enfants viennent réclamer lorsqu'ils ont faim, jamais auprès de leur père.
En cette journée internationale des droits des femmes, les femmes de Goma lancent un appel pressant à la paix plus fort que jamais. Elles implorent tous les acteurs impliqués dans la crise de faire preuve d'humanité afin d'abréger cette période des souffrances.
Voyons à présent ce qui s'est passé au Kwilu. En tout cas, les femmes déplacées de Kwamout vivant dans la ville de Bandundu ont passé la journée du 8 mars 2025 dans la méditation, n'ayant rien pour la célébration. Il s'agit de celles qui ont été forcées de se déplacer avec leur famille de Kwamout à Bandundu à cause des attaques incessantes de la milice Mobondo. À l'occasion, elles affirment que leurs conditions de vie ne font que s'empirer chaque jour, notamment à la suite des conditions hygiéniques déplorables. Ces femmes lancent un cri d'alarme pour une assistance en leur faveur. Et puis lueur d'espoir tout de même du côté des femmes vivant non loin du domaine agro-industriel présidentiel de Lancélé, ici dans la capitale. Ce site offre des opportunités d'affaires à plusieurs femmes rurales et urbaines pour soutenir la charge familiale. Ces femmes se considèrent comme des grossistes de Daipen. Leurs activités permettent d'alimenter les différents marchés et alimentations de la ville de Kinshasa en divers produits agricoles, ce qui facilite leur autonomisation dans les ménages. Des détails avec c'est un reportage signé Askin Zibia Tayoro.
Elles sont une cinquantaine qui se disent des femmes fortes. Elles travaillent de lundi au samedi dans le cadre de commerce et d'évacuation de produits agricoles en attente, avec Daipen qui leur accorde certaines faveurs. Fallon Matondo.
Daipen nous a accordé des valeurs. Nous achetons au prix des gros. Tu peux acheter des piments, des tomates, des choux. Ça dépend du marché selon que tel produit est plus sollicité. Il n'a pas limité le produit. Il nous accorde la priorité d'acheter tous les produits qui sortent de Daipen.
Priorité au Somban.
Pour ces mamans grossistes de Daipen, leurs activités rentrent dans le cadre de l'autonomisation de la femme. Nathalie Mangombo.
Oui, maman goy.
Que le maman paresseuse ne croise pas le bras à la maison. Si tu as 100 000 francs congolais, tu viens avec au Daipen, tu vas acheter des produits. En les vendant, tu auras des bénéfices qui te permettront de nourrir tes enfants. Aux femmes qui passent leur temps à calomnier, qu'elles viennent au Daipen.
Ces femmes grossistes affirment qu'elles sont devenues très célèbres au marché des Iguida, Gambela et Liberté, car elles y vendent régulièrement les produits de Daipen à la satisfaction de leurs clients, dont certaines alimentations au centre-ville.
SOS des retournés de l'Angola et des déplacés internes de Kamouina-Sapou installés à Bena-Kassampouila au Kassai oriental. Ils ont besoin d'un centre de santé, d'une école dans cette localité ainsi que de nourriture. Leurs cris de détresse ont été relayés par le chef de la localité lors de l'inauguration du forage de puits d'eau creusé par l'ONG ADC avec le financement du HCR. Explication Esther Ndalafina.
Au nom des habitants de sa localité, le chef Chimanga Tshona a énuméré d'autres besoins fondamentaux pour les retournés de l'Angola et les déplacés internes installés dans son entité.
Nous avons donné la terre gratuitement. Je demande au HCR qu'il n'oublie pas les accords. Nous avons présenté 3 préoccupations. Il y avait la construction des écoles, du centre de santé. Nous venons d'avoir de l'eau. Nous demandons sans exigence.
Docteur Jean-Jacques Ngondo, chef de bureau du HCR, dans le Grand Kassai, a promis de contacter d'autres partenaires humanitaires pour répondre à ses besoins.
Dans un contexte de réintégration des rapatriés, ça va très au-delà du mandat du HCR. Nous allons relayer donc leurs besoins auprès d'autres acteurs qui pourront aussi aider dans l'accompagnement de cette population dans le processus de leur réintégration. Nous avons indiqué que ce site est bien entendu un site de convergence.
Signalons que les habitants de Bela-Kansapuila accèdent désormais à l'eau potable grâce au forage construit avec le financement du HCR. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Une semaine après le blocage de l'acheminement de l'aide humanitaire, Israël a annoncé dimanche qu'il cessait de fournir de l'électricité à Gaza. Cette décision intervient à la veille de nouvelles négociations indirectes prévues au Qatar sur les modalités de la poursuite de la trêve avec le Hamas.
L'invité.
Près de 100 000 réfugiés congolais logés dans des camps de fortune vivent dans des conditions infrahumaines et d'horreur inacceptables au Burundi. C'est le constat fait par le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Sapou, au terme de sa mission d'évaluation et de solidarité effectuée du jeudi au samedi 8 mars à Bujumbura, au Burundi, auprès des Congolais qui ont fui la guerre dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Pour en parler, Radio Kapi reçoit le président de la CNDH qui s'entretient ici au téléphone avec Jeff Ngoy depuis Bujumbura. Suivez.
Paul Sapou, bonjour.
Bonjour.
En quoi consiste votre mission à Bujumbura?
Ma visite au Burundi s'inscrit dans une double perspective. D'abord, une mission d'évaluation de la situation des réfugiés et des déplacés congolais qui ont fui les hostilités, la guerre qui ont éclaté sur le sol congolais, notamment dans le nord et sud Kivu, et autour de Goma et de Bukavu et les environs. Ensuite, ma présence ici, dans cette mission, est un geste de solidarité envers nos compatriotes confrontés à des conditions de vie difficiles. Nous voulons nous assurer que leurs droits fondamentaux sont respectés et explorer aussi les pistes de collaboration avec les autorités burundaises ainsi que les partenaires humanitaires pour une meilleure prise en charge.
Qu'avez-vous constaté après avoir visité les sites de Gianga et Lugondo?
Oui, les conditions de vie dans ces camps restent précaires malgré les efforts fournis par le HCR, les autorités burundaises et les autres acteurs humanitaires. Nous avons constaté un manque criant d'accès aux services de base, notamment en matière de santé, d'éducation et de nutrition. De plus, plusieurs réfugiés expriment leur inquiétude quant à la lenteur du processus de relocalisation et de régularisation de leur statut. Il est urgent que des mesures concrètes soient prises pour améliorer leur situation et leur garantir une dignité humaine.
Que le message de compassion pour les militaires et policiers blessés se trouvant à l'hôpital où vous êtes passé.
Ces hommes et femmes ont consenti d'énormes sacrifices pour la défense de notre pays et la protection des citoyens. Ils doivent savoir qu'ils ne sont pas oubliés. Nous devons veiller à ce qu'ils bénéficient d'une prise en charge médicale qui soit adéquate et d'un accompagnement psychosocial pour faciliter leur rétablissement.
Quelle solution la CNDH préconise-t-elle pour les DDH bloqués faute de documents de voyage et moyens?
Eh bien, la situation des défenseurs de droits de l'homme et de leurs familles en exil presque forcée est particulièrement préoccupante. Nous appelons donc le gouvernement congolais à faciliter la délivrance des documents de voyage pour nos compatriotes bloqués à l'étranger. De même, un fonds de rapatriement d'urgence devrait être mis en place en collaboration avec les partenaires internationaux pour soutenir ceux-ci et surtout ceux qui souhaitent rentrer chez eux mais manquent de moyens. Enfin, il est impératif d'assurer leur sécurité une fois de retour.
que l'action urgente nécessite la crise humanitaire qui frappe actuellement la RDC.
Oui, la crise humanitaire qui touche nos compatriotes exige une action concertée, urgente. La RDC, en partenariat avec la communauté internationale, doit redoubler d'efforts pour assurer la protection de ses citoyens où qu'ils se trouvent. La solidarité et le respect des droits humains doivent guider toutes nos actions. Je tiens à remercier les autorités burundaises pour leur accueil et leur coopération.
Est-ce que vous envisagez un quelconque plaidoyer au terme de votre visite sur les sites de transit des réfugiés?
Bon, je pense que je vais axer mon plaidoyer autour de quelques axes, trois au total. Un renforcement des mécanismes de protection des réfugiés. Ici, nous voulons exhorter les autorités burundaises et les partenaires internationaux à garantir les droits fondamentaux des réfugiés, notamment en matière de sécurité et d'assistance humanitaire. Et cela, bien sûr, avec aussi les gouvernements congolais. Deuxièmement, sur l'amélioration des conditions de vie dans le camp, un accès effectif aux soins de santé, à l'éducation et aux moyens de subsistance qui soient impératifs pour éviter une détérioration de la situation humanitaire. Et enfin, nous allons nous préoccuper de la recherche de solutions durables. Il est essentiel d'engager des discussions sur les possibilités de retour volontaire, sécurisé et digne des réfugiés sur notre territoire en RDC.
Merci.
Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Alain Irung et à Dieudonné Nyangassa. Excellente journée à toutes et à tous.